Europe 1.
L'abus de faiblesse, il intervient lorsqu'une personne profite de la vulnérabilité d'une autre dans le but d'en tirer un avantage contraire à ses intérêts. L'abus de faiblesse peut être physique, psychique ou encore financier. Dans certains cas, ces manipulations peuvent plonger les victimes dans un état d'emprise face à leur bourreau, altérant ainsi leur discernement et leur capacité à agir. Comment se libérer de la manipulation mentale ? Comment reprendre une vie après avoir passé des mois sous emprise ? Comment faire à nouveau confiance lorsqu'on a été abusé ? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Nathalie. Alors qu'elle venait tout juste de faire face à des deuils dans sa famille, son avocat a profité de sa fragilité pour abuser d'elle. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus. Bonjour Nathalie.
Bonjour Olivier.
Bonjour, comment allez-vous ?
Ça va bien, et vous-même ?
Ça va, merci. Merci de nous accueillir pendant ces quelques jours où l'on va évoquer votre histoire. En 2010, à 7 mois d'intervalle, Nathalie perd soudainement son mari, puis sa sœur. À la tête d'un héritage conséquent, comprenant plusieurs biens immobiliers, Nathalie fait appel à un avocat pour l'aider à gérer la succession.
La rencontre de cet avocat s'est faite dans une situation de dépression, on va dire de dépression, oui, parce que je gérais toute seule une succession qui concernait ma belle-famille et moi-même. C'était très difficile de gérer en même temps le chagrin et le travail qui incombe à toutes les personnes dans ma situation, sans aide particulière, si ce n'est un notaire. Mais le notaire ne peut pas aller au-delà de ses prérogatives. Donc oui, le décès de ma sœur, qui est un décès tragique, ma mère Alzheimer depuis un an, la situation devenait étouffante, c'était très très étouffant. Et cet avocat est arrivé au début relativement froidement et très rapidement, il a décidé pas mal de choses.
Aujourd'hui, le montant que cet homme vous a volé s'élève à combien ?
On évalue à approximativement 2 millions, quelque part, entre 1,8 million et 2 millions d'euros, oui.
On va voir qu'au fil des semaines et des mois, la relation que vous tissez avec cet homme est tellement forte qu'il arrive un moment où vous ne prendrez plus une décision sans le concerter.
Oui, c'est arrivé très vite. Très rapidement, c'est lui qui donnait les ordres. Je passais mon temps à lui demander ce qu'il fallait faire, comme ça se pratique avec un avocat. Il répondait, il imposait. Il y avait parfois, comme j'avais du caractère, j'avais quand même un semblant de caractère. J'essayais de discuter, de négocier les choses qui ne me semblaient pas exactes. Mais de toute façon, avec le temps, très rapidement, c'est ce qu'il imposait, ce qu'il décidait, qui restait.
Comment est-ce que vous êtes rentré en contact alors avec cet avocat ?
Tout de suite, l'un de mes deux frères me l'a recommandé. Donc, j'avais aucune raison de douter d'une recommandation venant de mon frère. Il était parfaitement informé du contenu de la succession et il s'est occupé de pas mal de choses. Mais il a été totalement omniprésent à partir du moment où moi je n'étais plus en état de raisonner. Par exemple, quand j'étais chez la notaire, il caressait les cuisses, il avait le côté tactile. C'est lui qui avait instauré une signature 3A, amitié, affection, attention. Nous nous sommes confiés l'un à l'autre. J'ai une présence apaisante en vous caressant l'épaule.
La stratégie a plutôt bien fonctionné.
Elle a très bien fonctionné. Parce que j'étais en demande, c'est tout. Parce que j'étais en état de vulnérabilité. C'est faiblesse, vulnérabilité, en état de choc total, de traumatisme total.
Vous m'avez dit qu'après le décès de votre sœur,
oui.
il Il vient chez vous faire une sorte d'inventaire de vos affaires.
Chez mon mari.
Chez votre mari.
C'est supposé être une visite professionnelle. Donc, il fouillait la maison de fond en comble, les tiroirs, le grenier, toute la maison. Je sais que je pleurais dans une pièce en bas, dans le salon. Et le salon était près de l'entrée. Et dans l'entrée, se trouvait un vestiaire. C'est des images qui m'ont marquée. Et je l'ai vu enfiler la veste de mon mari, la veste de marine. Comme lui était costaud, il a essayé. Et il fouinait partout, il regardait partout, il cherchait... En fait, il regardait les œuvres d'art les unes après les autres.
Il y a surtout un manque de pudeur totale.
Ouais. Ah ouais. Un manque de sensibilité absolue.
Selon Nathalie, son avocat ne se contente pas de faire l'inventaire ce jour-là. Il lui propose également un marché. Lui céder un certain nombre d'objets à des prix fixés par lui-même en échange d'un rabais sur ses honoraires.
Cet avocat m'avait précisé que c'était une coutume, que c'était une tradition. Ça veut dire que ça se faisait couramment chez les avocats de prendre des honoraires en objet. Voilà.
Alors pour 16 500 euros, si j'ai bien compris, déjà il y avait une voiture.
Voilà, presque neuve, enfin qui avait un an ou deux, très peu roulée.
On a une tapisserie ancienne, on a une peinture du 18e, on a des objets marins.
Et
bien évidemment que on voit là que à travers cette première arnaque, parce que c'en est une, la tonalité est donnée.
Oui, la valeur réelle des objets était totalement.
Elle dépassait largement.
Absolument, absolument.
D'ailleurs, est-ce que ses honoraires ont été baissés ?
Il n'a jamais baissé.
Très affaiblie, Nathalie fait des séjours réguliers à l'hôpital. Son avocat devient alors son principal soutien et se montre de plus en plus familier. Contre l'avis des médecins, il a invité sa cliente à venir passer quelques jours en famille chez lui, en Corse, dans un ancien couvent.
Ces trois premières semaines que j'avais passées avec eux, c'était presque béni des dieux. C'était un sentiment de tout petit bout de famille au moment où la mienne dégageait. Voilà. Et peu de temps après, cet avocat qui s'occupe de très près de mes affaires me convainc d'investir dans sa SCI. Son couvent est une SCI. D'investir dans sa SCI en me faisant miroiter 20 000 euros par mois. Oui, à Paris, de dividendes.
Ouais. Combien est-ce que vous allez investir dans ce couvent ?
Plus ou moins dans les 800 000. De toute façon, je ne suis pas dans mon état normal. De toute façon, je suis malade. De toute façon, cette personne vient et me tend la main. Et je ne suis pas en mesure de me rendre compte qu'il me tend la main moyennant plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour moi, c'était l'effet robe, c'était l'effet avocat. Dans ma tête, je refusais de le remettre en cause. Il me fait penser à quelqu'un qui... un espèce de personnage... de romans qui prétend porter la bonne parole, qui évoque des phrases d'évangile et qui vous semonce juste là où il faut, quand il le faut.
Oui. Marie-Frédéric et Nathalie se sont connues pendant leurs études. En décembre 2012, à la demande de Nathalie, elle a été invitée, ainsi que deux autres amis, à venir passer le réveillon dans ce fameux couvent corse.
Donc nous sommes arrivés, tout était charmant et sympathique. Et puis, je vois Nathalie d'une pâleur extrême. Donc ça me choque, enfin ça me surprend désagréablement. Et je me dis que c'est la suite de sa dépression, qu'elle est encore sous le coup de toutes ces douleurs subies. Et puis, nous sommes restés 3 jours, et là, c'est là que j'ai pu voir son comportement tout à fait extraordinaire, mais physiquement même. Il y avait de grands espaces, là-bas, une cuisine très grande, qui donnait sur une salle à manger très grande, et je voyais Nathalie marcher sur la pointe des pieds pour se déplacer dans ces grands espaces, comme si elle avait peur de déranger ou de faire du bruit. Je ne comprenais vraiment pas. comment c'était possible. Connaissant Nathalie, je la reconnaissais pas du tout dans cette attitude craintive, apeurée presque. Et puis, il se trouve que, au bout d'un petit moment, on en a parlé avec mes amis, et elles m'ont dit spontanément, mais tu sais, on a l'impression de vivre dans une secte, comme une atmosphère pesante autour de Nathalie et contraignante. Et je leur dis que je partageais vraiment ce sentiment. Et donc, nous avons demandé à Nathalie de nous rejoindre dans la chambre que j'occupais. Et nous lui avons évidemment parlé de tout ça. Elle a écouté, bien sûr, tout ce qu'on disait, mais elle n'avait pas l'air plus remuée que ça.
Il a été au courant de ces échanges ?
Alors, il n'a pas connu la nature des échanges, je crois. Je ne crois pas que Nathalie lui en ait parlé. Mais par contre, il n'est pas fou. Il a bien mesuré le danger pour lui de notre intervention. Ce qui a fait que par la suite, Nathalie ne m'a plus téléphoné ni parlé et m'a expliqué ensuite que c'était bien sûr son avocat qui m'avait diabolisé ainsi que mes amis. Et voilà, donc plus de nouvelles pendant un certain temps, jusqu'à ce que petit à petit ça revienne.
Frédéric a été particulièrement véhémente parce qu'elle était convaincue que j'étais en danger, que c'était que ce qu'elle venait de découvrir était extrêmement dangereux pour moi. Donc à un moment, c'était pour moi dans ma tête, dans ma petite tête bien abîmée, fragile. Bien fragile, oui. je dois faire un choix oui. et ce choix, je ne suis pas prête à le faire en faveur de Marie-Frédéric. Je ne
non,
peux
oui.
pas, je c'était la seule façon, c'était d'espacer les relations et progressivement, malheureusement, on était fin 2012, début 2013, mon avocat m'a convaincue, mais c'est au terme de conversation très rapide, hein, que c'était de la jalousie, c'était pure jalousie de la part de ces trois femmes.
Ouais.
Voilà, voilà.
De plus en plus isolée, Nathalie éprouve le besoin de changer d'air. Elle décide de partir quelque temps au Cambodge, un pays qui l'attire depuis toujours et où elle va faire une rencontre qui va beaucoup compter pour elle. Celle d'Hermine, une Française qui y vit depuis 10 ans. Bonjour Hermine.
Bonjour.
Merci de prendre de votre temps pour que nous parlions de votre amie qui est à côté de moi, Nathalie. Vous vous occupez d'une association où vous prenez soin des enfants des bidonvilles de Phnom Penh, l'association s'appelle Chandin Town Spirit. Et c'est dans ce cadre que vous vous êtes rencontrés, Nathalie et vous. Quel souvenir vous gardez de Nathalie à ce moment-là ?
Quand nous avons sympathisé, Nathalie, elle venait beaucoup avec moi dans les bidonvilles.
Oui.
Elle faisait beaucoup pour mon association. Et par la suite, elle est devenue une donatrice de mon association. Elle parlait souvent de son avocat qui s'occupait des affaires et de la succession, et de la succession de son mari. Et aussi, j'avais appris qu'elle lui laissait des chèques en blanc et pour régler ses affaires le temps qu'elle était au Cambodge. Ça me semblait très curieux. Je lui disais à chaque fois, mais pourquoi tu fais confiance à ce monsieur ? Et elle était triste un petit peu que je mette en doute la confiance qu'elle avait envers ce personnage. Souvent, on se disputait à cause de ça. Mais elle faisait rien sans lui, en fait. À un moment donné, vu qu'elle était super bien intégrée à ma famille et aux Cambodgiens, elle a voulu acheter un appartement.
Oui.
Et à la dernière minute, son avocat s'y est opposé. Et elle m'a dit, je ne peux plus acheter cet appartement parce que je dois prêter de l'argent, une grosse somme à un ami qui m'aide beaucoup en France. Et quand je lui ai dit, ce personnage, ça ne serait pas ton avocat, elle m'a dit, mais non, mais pas du tout, mais pas du tout. Et elle a été très fâchée.
Quand avez-vous appris ce qui se passait dans la vie de Nathalie ?
C'était à peu près en 2015.
Oui.
Elle m'a tout raconté et elle était effondrée. Elle était triste aussi de m'avoir menti aussi.
Ouais.
Il m'a dit, oui, je suis désolée, c'était bien à lui que j'ai prêté cette somme d'argent. C'est pour ça que je n'ai pas pu acheter l'appartement. C'était vraiment disputé. On s'était fâchés quand même.
Ouais. Merci beaucoup, Hermine. On est à quelle saison, là, au Cambodge?
Bah là, c'est la saison des pluies. Les après-midi, il fait des averses.
Mais
voilà, ça va durer quelques...
Malgré les averses, vous gardez le sourire.
Oui.
Je comprends pourquoi vous n'êtes pas mis toutes les
deux. Garde toujours le sourire. Elle est magnifique. C'est une personne magnifique.
On t'attend, Nathalie.
Et vous attendre.
Je sais que tu pourras bientôt venir nous revoir.
On croise les doigts. À la cambodgienne.
Malgré les mises en garde de ses amis, Nathalie s'est longtemps refusée à voir la vérité en face. Mais à la fin de l'année 2014, son avocat commet une erreur. Il demande à Nathalie de signer sur le champ un document qui lui permettrait d'acquérir en partie une propriété qui appartenait à son mari. Nathalie tente de s'y opposer et décide pour une fois d'en parler avec Sabine et Dominique, sa sœur et son beau-frère.
Arrive avec un document et me demande de signer ce document qu'il ne m'a pas envoyé au préalable, parce que généralement il envoyait des documents qui concernent la succession ou d'autres par mail. J'avais le temps d'étudier et ce jour-là, je lui dis que je n'ai pas le temps d'en prendre connaissance, donc je ne vais pas signer. Et là, c'était vraiment la première fois que je lui tenais tête. Et là, il s'est mis dans une colère mais foudroyante, j'étais une ingrate, et il s'en est venu aux mains, il m'a véritablement frappée, et je pleurais, j'ai signé en pleurant, c'était carrément trois baffes, il s'est jeté sur moi, c'était trois baffes, et il est parti dans une colère dont je ne le croyais pas capable. Il m'a fait peur, j'ai eu vraiment peur, parce que c'est la première fois qu'il se comportait comme ça, avec brutalité, méchanceté, brutalité. D'habitude, il négociait les situations.
C'était la première fois que tu lui refusais quelque chose aussi. Sa violence à ce moment-là vient du fait que tu dis non. Oui. Alors que tu as toujours dit oui.
Oui.
On va demander à votre sœur ce qu'elle en pense.
Moi, au départ, je n'ai pas douté. Je ne me suis pas dit c'est le gros méchant loup. Je n'ai pas vu tout ça, puisque ma sœur ne nous dévoilait rien. Et quand elle nous a révélé, quand elle a eu une prise de conscience, puisqu'effectivement, elle allait mieux, elle reprenait du poil de la bête, elle mettait plus un quart d'heure pour faire 100 mètres, mais enfin, voilà, elle était vraiment... elle était au plus bas. Elle était l'ombre d'elle-même, complètement. Donc là, elle allait mieux, et donc quand elle nous a appris la nouvelle, on partait deux jours, moi j'étais dingo, quoi. On se dit, mais on était là tous ces mois-là, et on n'a rien vu. Rien du tout. Mais on n'avait pas les moyens de le voir, parce que ma sœur donne le change aussi, et moi, de toute façon, je ne faisais pas d'ingérence, donc...
Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous lorsque vous avez appris ce qu'elle endurait, ce qu'elle avait vécu?
C'est l'impression qu'il a vraiment abusé d'elle, quoi, à tous les sens du terme. Enfin, je comprenais pas bien pourquoi elle s'était fabriquée une deuxième famille en Corse, où il semblait avoir des rapports familiaux. Enfin, vraiment l'impression que c'était une nouvelle famille, quoi.
Il est devenu comme quelqu'un de votre famille, cet homme?
Oui, réellement. Et plus. Quelqu'un dont je ne peux pas me passer, ça veut dire plus encore, c'est... Oui, plus encore.
Il n'en est sans doute pas sa première victime, qui n'ont pas eu le réflexe de ma sœur d'aller se défendre en justice, parce que vous imaginez, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de foi pour se dire qu'on va attaquer un avocat. Faut quand même le faire, faut...
Parce que ça n'est pas facile, là.
C'était... se prendre la décision d'abord d'en parler, d'en parler aux gens autour de moi, ça veut dire aux amis, à la famille, de tout ce qui s'était passé, tout ce que j'ai caché, parce qu'on m'a demandé de le cacher depuis tant d'années, c'était déjà énorme. Et la deuxième, est-ce que tu es capable d'entamer une bataille? Voilà.
Est-ce que lorsque votre sœur, votre belle-sœur Dominique, vous a mis au courant qu'elle entamait un long travail où elle allait se battre, ça vous a fait peur?
Bien sûr.
Non, moi, ça ne m'a pas fait vraiment peur. Ça m'a presque rassuré. Je me disais, ça y est, elle est redevenue, entre guillemets, normale.
Oui.
Elle s'est fait abuser, elle va réagir, elle va attaquer.
Moi, j'ai mis des mois avant de me remettre, en fait, de ce qui s'est vraiment passé. Des mois, j'étais dans l'incompréhension.
Pourquoi ?
Parce que c'est très, très choquant, quand même. Quand un proche est victime d'une manipulation pareille, comme disait mon mari, ça relève de la secte. Non, mais c'est effarant. Je trouve ça effarant. Même aujourd'hui, j'en suis pas encore remise.
Une minute.
Non, mais... Et j'aimerais bien qu'une fois pour toutes, ce soit derrière elle. Ça, j'aimerais bien.
Si Nathalie a décidé de se battre, c'est aussi parce qu'au même moment, une autre affaire a éclaté dans la presse. Son avocat a été mis en examen pour complicité d'abus de confiance dans le cadre d'une succession qui concerne une famille renommée. Nathalie se lance donc dans une procédure judiciaire et obtient gain de cause. L'homme est condamné au civil à 3 mois de suspension du droit d'exercer et à 900 000 euros de dédommagement. Nathalie n'a toujours rien perçu, son avocat s'étant déclaré insolvable. Mais cette victoire a été une étape importante pour elle.
Elle est essentielle parce que c'est une reconnaissance officielle, vraiment au-delà de la mise en examen, officielle par la justice des actes commis par cet avocat.
Avec du recul, aujourd'hui, vous allez mieux ?
Sans aucun doute, j'ai récupéré beaucoup de confiance en moi, confiance dans les autres. Il faut savoir faire appel, il faut savoir tendre la main aux gens qui vous aiment.
Et surtout ceux que vous connaissez depuis un moment.
Voilà, oui.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui de meilleur
Le meilleur qui puisse m'arriver
Je pensais à un petit bidonville du côté de Phnom Penh.
Vous avez trouvé, vous avez deviné. C'est pouvoir retrouver ces enfants qu'on m'a déjà, pouvoir les aider, pouvoir consacrer un peu de ma vie, encore un peu aujourd'hui, à ces enfants-là. Parce que c'était la plus jolie chose qui me soit arrivée ces dernières années.
Mille merci, Nathalie, d'avoir participé à ce film et puis d'avoir eu le courage d'évoquer des choses qui, je le sais, sont extrêmement difficiles pour vous.
Merci infiniment pour votre sensibilité. Merci.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Peu de temps après notre tournage, l'avocat de Nathalie a été radié du barreau, un événement rarissime. Même s'il a fait appel de cette décision, l'homme a été mis en examen pour abus de faiblesse, abus de confiance et escroquerie. Dans l'attente d'un nouveau procès, Nathalie espère que cette ultime étape lui permettra de tourner définitivement la page. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Daviau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.